À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir. Le podcast.
Avant de démarrer cette enquête, j'ai besoin de clarifier quelques notions. J'ai donc passé un coup de fil à mon ami Nicolas Mainviel, qui dirige le master spécialisé Marketing, Design et Création de l'école de commerce Audencia à Nantes. Nicolas, ça fait presque 20 ans que je le connais. Il a un parcours académique long comme mon bras et il est surtout spécialiste du design fiction, qui s'inspire de la science-fiction pour imaginer les évolutions d'une organisation et de ses services. Autrement dit, Nicolas ne fait pas qu'imaginer l'avenir, il en fabrique des prototypes. En ce moment, il anime les travaux de la Red Team du ministère des Armées. Avec des auteurs de science-fiction, il construit des scénarios futuristes pour anticiper les risques technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux susceptibles d'engendrer des conflits armés à horizon 2030-2060. Alors, en cette matinée de janvier 2022, j'ai appelé Nicolas pour commencer à décrypter le lien entre la notion d'avenir et celle de temps. Et puis, celle de futur aussi, car comme il me l'a fait remarquer, en anglais, avenir et futur se disent avec le même mot, future, ce qui n'est pas le cas en français.
Design fiction, c'est une pratique de spéculation qui vise à, si je résume de manière à la hache, hein, qui vise à tangibiliser le futur. Concrètement, je crée des maquettes de demain, je les ramène aujourd'hui, je dis voilà, il va faire chaud demain, il faut que tu le vives. C'est une forme de prospective, c'est une forme de spéculation, il y a du design dedans. Donc là, tout le monde est en train d'essayer de le cadrer. D'ailleurs, c'est rigolo, la pratique est établie, donc tout le monde se tire dessus pour dire c'est quoi le bon design fiction. Mais juste en résumé, je fais des maquettes de demain. Voilà, fiction.
Donc, le design fiction, ça sert, si j'ai bien compris, à faire éprouver le futur. Par exemple, à des patrons d'entreprise, à des décideurs. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils aient des difficultés à penser le temps long ?
Et ce qui est assez paradoxal là-dedans, c'est qu'on vit avec des quarterly PNL, donc on vit avec des rendus de PNL, un profit and loss trimestriel. On vit avec une comptabilité ou un contrôle de gestion qui se fait maintenant à l'heure. Et dans les startups, c'est poussé à l'extrême. Hein. On vous dit, c'est quoi le North Star Index ou la single unit métrique. On va la regarder toutes les secondes pour vérifier que, et je dis pas que c'est le cas de Deezer, hein, mais que sache que Deezer a un bon taux de transformation sur sa plateforme. Alors qu'on a de plus en plus d'études qui montrent qu'un des fondements et une des grosses fragilités du capitalisme, c'est justement ce focus sur le court terme. Alors, ça me fait penser à deux autres choses, là, comme ça à chaud, ça me fait penser au marshmallow, tu sais, l'étude.
Là, Nicolas fait allusion à l'expérience du marshmallow, conduite en 1972 sur un groupe d'enfants par le psychologue Walter Michel de l'université de Stanford.
La méthode on ne peut plus sadique consistait donc à placer un enfant devant une table où se trouvait une guimauve très appétissante.
Un marshmallow est offert à chaque enfant.
L'enfant devait se retenir de manger la sucrerie s'il voulait en avoir une deuxième, mais pour ça il fallait attendre un quart d'heure. Vous imaginez, une éternité.
Yeah, so wait just a second, let me explain. So you can either eat this one marshmallow right now, or if you can wait for me to go get it from the other room, you can have two marshmallows instead.
I want two marshmallows.
La plupart des enfants ne résistent pas et mangent le marshmallow immédiatement.
Everybody knows that young children, particularly toddlers, 2 to 4 year olds, are subject to impulsivity.
Mais cette expérience, qui est d'ailleurs contestée, ne montre pas seulement que notre cerveau est attiré par les gratifications de court terme. Elle montre aussi que notre comportement va dépendre de la confiance que l'on a dans les termes du contrat. Plus l'enfant a confiance dans l'adulte qui lui promet un deuxième marshmallow au bout de 15 minutes, et plus il va être susceptible de résister à la tentation.
Donc on voit bien que c'est intrinsèque. À côté de ça, il y a d'autres éléments, ce qu'on appelle la peer pressure en anglais, donc la pression des pairs quant à la performance, a un rôle, ça a été démontré, assez massif sur la capacité à penser long terme. Donc c'est assez paradoxal, on a des cerveaux qui sont inadaptés à l'environnement technologique et corporate qu'on a. On a un environnement corporate capitaliste qui nous pousse à penser court terme, alors que de manière purement rationnelle, j'ai envie de dire, on devrait penser on devrait penser long terme. On ancre très très peu de choses sur le long terme. Le simple fait que la comptabilité verte ait mis autant de temps à arriver, c'est dingue de se dire qu'on doit avoir une double comptabilité et qu'à terme, mais ça va prendre 10 ou 15 ans, on va arriver à une comptabilité green, entre guillemets. Je trouve ça assez frappant, ce sujet-là. Ça s'explique après sur la structure en tant que telle, hein, encore une fois, technologiquement. Moi, un truc qui me frappe, je vais faire un petit saut là, un petit détour, mais l'infini scroll, tu vois, sur Netflix, ou pas sur Netflix, mauvais exemple, mais sur Facebook ou LinkedIn, quand tu regardes un peu cette notion de design pervasif, en fait, c'est totalement incroyable ce truc-là. Tu produis de la dopamine en ayant une action sur une interface, tout simplement parce que face à quelque chose dont tu ne sais pas ce qui va arriver, donc tu tires vers le bas, tu as un reward, entre guillemets, systématique, et quelque chose apparaît, c'est toi qui manipule et c'est toi qui le bosse. Et donc tu produis de la dopamine, c'est dingue en fait. Et donc on a construit un environnement technologique qui est fait pour nous raccourcir, entre guillemets. On va pas revenir sur le boy button, mais c'est un autre débat, mais on en a énormément.
Ah si, on va s'arrêter un instant sur ce buy button. C'est ce bouton buy now, ou en français, ajouter au panier, achat immédiat, que l'on trouve sur tous les sites de vente en ligne. Roman Ksnarik, dans son bouquin The Good Ancestor, en parle longuement. Et il suggère une idée que je trouve géniale. Imaginez deux minutes que ce Buy Now button soit remplacé par un bouton Acheter demain, ou Acheter dans deux semaines, voire Emprunter à votre voisin. Est-ce que vous auriez autant envie de cliquer dessus ? À travers cet exemple, on perçoit bien ce que veut dire Nicolas quand il explique que nous baignons dans un environnement technologique qui nous pousse à penser immédiat.
Et les designers, je pense, ont un rôle absolument clé là-dedans. C'est eux qui conçoivent la dimension sensible de notre environnement. Quand tu t'assois sur une chaise, elle a été conçue par un designer. Si elle est bien faite, t'y restes. Si elle n'est pas bien faite, à l'aéroport, tu vas te lever et te balader. Et donc, dans toutes ces démarches, je pense que les designers ont un rôle absolument fondamental. Et tout ce triptyque, tu sais, d'économie, de désirabilité, etc. Je pense qu'il y a un vrai penchant, là, à un moment donné, se dire, c'est quoi quelque chose qui est désirable, qui va me générer une émotion, sans avoir un impact derrière. Parce que là, pour le moment, c'est extrêmement corrélé à des éléments assez court terme, en fait. Et ça, c'est un sujet qui me frappe, parce que finalement, on a des... Tu vois, on peut parler de mode et de tendance, mais c'est quand même dingue. On est dans un univers où la tendance, la fast fashion, est extrêmement court-termiste. C'est complètement ahurissant, ce truc-là. Et quand tu vois des marques comme Loom, par exemple, qui sont anti-fashionista, qui font des choses en quatre couleurs extrêmement durables, c'est rafraîchissant. Et tu te poses la question, tu te dis finalement, il y a des intemporels. Mais que vient faire le design là-dedans? Parce que sur un intemporel, c'est un intemporel. T'as un patron de Netflix qui te dit que son compétiteur, c'est le temps de sommeil. C'est complètement dingo, en fait. C'est ahurissant.
Il a raison, Nicolas. C'est dingo et c'est flippant. Ça me rappelle Patrick Lelay et son objectif de vendre notre temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Et ce que je comprends de tout ça, c'est qu'il y a des patrons d'entreprise dont l'objectif assumé est de nous rendre accros à leurs offres en nous droguant au plaisir immédiat. Et il me semble que l'on en sous-estime dangereusement les conséquences sur nous et sur notre futur.
C'est un immense sujet, cette histoire de penser court terme. Et en fait, de manière assez paradoxale, là aussi c'est un enjeu clé du capitalisme, dans la mesure où ça pourrait peut-être être une solution. C'est pas vrai, hein, il y a plein d'autres soucis, mais en tout cas ce serait une réelle amélioration si le capitalisme se mettait à penser long terme. Il y a un livre que je t'ai recommandé d'ailleurs avant qu'on fasse cet échange, qui est assez poétique sur ça. Alors il passe facilement sur beaucoup de choses, il y a plein de choses discutables, mais qui s'appelle Le Bon Ancêtre, The Good Ancestor. Et c'est intéressant de se dire finalement, qu'est-ce que dans mes activités à date, je fais pour mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et j'ai une évidente responsabilité là-dessus. Je laisse une empreinte sur la planète, évidemment, je laisse les déchets derrière. Ils vont pas disparaître, même si je les vois pas. On est un peu en train d'oublier le futur. Et paradoxalement, alors je vais faire une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai l'impression qu'on a privatisé le futur.
Alors là, je ne suis pas sûr de tout comprendre. C'est fort comme terme, privatiser. Ça veut dire que des entreprises se sont déjà appropriées notre futur, qu'il leur appartient ? Dans son bouquin, Roman Ksarik dit qu'on a oublié le futur, qu'on fait comme s'il n'existait pas, et surtout, comme si personne n'allait habiter sur Terre dans 100 ans à devoir se coltiner nos déchets, les effets du changement climatique, la dégradation irréversible de la biodiversité, etc. Il parle de tempus nullius. Mais là, Nico nous dit quelque chose d'un peu différent. Pour lui, il y a des volontés qui s'approprient notre futur.
On a des enjeux d'inégalité, et le capitalisme nous offre une vision encore plus exclusive. Et je pense qu'en fait, à force de privatiser le futur, de montrer des Black Mirror, il y en a quelques-uns qui sont terrifiants, hein, sur le crédit social notamment, où on explique l'impact que peut avoir une entreprise. Moi, le métavers m'empêche de dormir, hein, pour être sincère. Et finalement, et là, on peut revenir sur la langue française, mais à force d'en oublier le futur, on ne se crée pas d'avenir, en fait. Il y a un sujet clé quand on parle du futur et d'avenir, du coup, c'est que les futurs préexistent. Là, à l'instant où on parle, ce sont bien nos actions qui vont développer les futurs avenirs, c'est bien nos actions actuelles qui vont empiler, faire pivoter un futur et qui vont créer notre avenir. Et en fait, toutes ces démarches de penser long terme, c'est pour ça que je pousse énormément sur ça. La pensée prospective, c'est une pensée de l'action, contrairement à ce qu'on dit. J'ai beaucoup de personnes qui disent « Oui, tu fais des scénarios, personne ne les écoute. » Ben non, en fait, penser long terme, c'est agir aujourd'hui, pour peu qu'on en ait construit la bonne narration et les bons outils. Mais on est bien acteurs de ça. Et moi, ce qui me chagrine profondément, c'est de me dire que je vais subir des futurs, que mon avenir va être impacté par des futurs technologistes, technologues, que sais-je, je sais pas comment le formuler, d'entreprises, de sociétés du CAC 40 ou que sais-je, de la silicone. Et le métavers, là, c'est quelque chose qui me fait absolument pas rêver. Donc, je pense pas que ce soit un avenir commun souhaitable. Mais par contre, c'est un futur technologique extrêmement présent et très clair. À force de laisser d'autres personnes s'approprier des futurs possibles, on remet en question notre avenir, en tant que Français, mais en tant que citoyen, en tant qu'humain. Et c'est un vrai sujet de complexité. Ouais, je vais faire une mauvaise métaphore, mais en fait, le futur, c'est un plat de spaghettis, on le regarde comme un plat de lasagne.
Et là, mes cracottes d'amour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de quoi ? Pour la recette des spaghettis, la belle et le clochard.
Bonne nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie. Quelle belle, belle annotée.
Les gars, aujourd'hui, je me suis penché sur un plat que j'aime énormément, les lasagnes.
Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on empile des couches de tech et on dit, regarde, il y a ça qui va arriver. La réalité, c'est que en fait, c'est pas un plat de lasagne avec des boulettes de viande qui seraient, je sais pas, des cartes folles ou des signes noirs, que sais-je. C'est vraiment un plat de spaghetti, en fait. J'ai une spaghetti qui va être de l'IA, une spaghetti qui va être de la RV, réalité virtuelle, une autre. Je mets tout ça dans ma casserole, je secoue fort. Et ça me donne un énorme gloubi-boulga. Et c'est très dur. Et c'est aussi la difficulté, en fait. Et quand on parle de demain, c'est qu'on en prend par petits bouts. J'ai fait une présentation au Conseil de l'Europe la semaine dernière. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'étais face à des gens qui étaient extrêmement pointus, mais incroyablement pointus sur le quantique, sur tout ce que tu veux, et totalement silotés. Et donc, en fait, c'était un plat de lasagne. C'était pas un plat de spaghetti. Et ça, c'est la complexité, c'est de te dire, finalement... Il y a des gens qui ont la capacité à imposer le fait que le quantique, le métavers et la RV sont des futurs souhaitables et donc notre avenir. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. Mais on voit des gens qui sont capables de préempter quelque chose sur la base d'une communauté dans une chambre d'écho parce qu'il y a 15 ans, quelqu'un s'est dit « Je vais connecter tous les gens de la planète, ça va être fabuleux. » Et le savoir va se partager. Et en fait, les conséquences inattendues des technos sont massives. Donc je reviens à mon plat de pâtes là, mais encore une fois, très mauvaise métaphore, mais finalement... En tirant une spaghetti, je fais un nœud quelque part. Et c'est frappant de se dire finalement, on met en place des techs, donc on ne connaît pas les conséquences, qui vont avoir un impact fort sur nos avenirs, mais avec des gens qui ont des absolues certitudes sur les futurs qui sont proposés. Parce que Zuckerberg, chaque fois que tu le vois au Sénat américain, il n'a pas l'air d'être très ennuyé par les questions en fait. Hein.
We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry.
Non, il se pose pas beaucoup de questions quand même. Et pourtant, c'est notre futur.
Donc. Si je résume, on a des entreprises qui mettent sur le marché des technologies toujours plus sophistiquées, qui ont des impacts potentiellement massifs et inattendus, et tout cela sans avoir dévoilé, et peut-être même sans avoir défini, le futur collectif vers lequel ces technologies nous emmènent. Et nous, on est, collectivement, fascinés par ces technologies. Un peu comme des lapins dans les phares d'une voiture.
Le lien entre innovation et progrès n'est pas évident, et donc quand tu pousses une techno... Tu as des gens qui te disent l'IA, le quantique, c'est l'avenir. Tu dis, mais l'avenir de quoi ?
L'intelligence artificielle, ou IA, c'est la pratique qui tend à faire penser les machines. Le terme est apparu pour la première fois lors d'une conférence à l'université de Dartmouth en 1956. Mais le premier exploit de l'intelligence artificielle, c'est quand l'ordinateur Deep Blue bat le génie des échecs Kasparov en 1997. À l'avenir, c'est elle qui nous permettra de nous déplacer dans des voitures autonomes et d'avoir des robots domestiques. Ça vous paraît loin ? Pourtant, il y en a déjà partout dans notre quotidien. Par exemple, avec les chatbots, ces programmes intelligents de discussion, qui vont permettre à Cyril de régler son problème de machine à laver, même un dimanche soir. Pareil pour Laurent, qui peut papoter tranquillement pendant que son nouvel aspirateur fait le ménage tout seul. Mais aussi tout simplement quand le smartphone de Dominique lui permet d'envoyer des SMS sans faute d'orthographe avec l'autocorrection, ou de commander un taxi sans les mains grâce à la reconnaissance vocale. Bref, l'intelligence artificielle est partout, mais attention, elle n'empêche pas encore l'erreur humaine.
Quelles sont les consignes attendues, qui réfléchit réellement à ça. Et tu sais, cette histoire de court-termisme, en fait, quand tu vois la compétition sur le quantique qui est démesurée, et on ne se rend pas compte de la bataille et de la privatisation potentielle de biens publics que ça peut engendrer. Un exemple rapide, hein, mais le jour où il y a un ordinateur quantique, il n'y a qu'une forme d'aile volante qui est la plus efficiente pour trimballer sans personne. Le premier qui l'a atteint l'a privatisé, et puis voilà, tu as privatisé une partie du transport aérien avec un brevet sur 25 ans.
Ce qu'on dit là me paraît très valable pour la société dans laquelle je vis, moi, en France, au XXIe siècle. Mais est-ce que vraiment toutes les organisations sont prises dans cette frénésie du temps court et cet aveuglement technologique ?
Il y a quelques exemples, hein, d'organisations ou de civilisations qui pensent long, les Amérindiens, cette histoire de septième génération, là, ou la relation à la Terre. Moi, il y a une organisation en France qui me frappe, parce que j'ai la chance de bosser pour elle, ce sont les armées. Et je sans dévoiler le travail que je fais pour eux en tant qu'animateur là de l'arrêt team, ce qui me frappe vraiment, c'est qu'on construit, donc ça c'est public, hein, le SCAF, qui est le système de combat aérien du futur, avec un atterrissage qui est, je sais plus, 2040 je crois, et qui va être un avion qui va durer jusqu'en 2100. Et là on a quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que en fait tu te rends compte qu'on est sur des démarches techno avec une vision de l'usage qui est extrême. Je veux dire, on parle d'un quasiment d'un demi-siècle ou d'un siècle. Le Rafale aura 40, 50, 60 années d'existence quand on va le sortir. C'est complètement dingue. Et il y a une forme de prophétie auto-réalisatrice là-dessus, et moi ça me fascine. C'est-à-dire, en tant qu'acteur étatique de la violence, je pose sur la table que demain le combat aérien sera un système de système, ça s'appelle, et que dans ce cadre-là, l'humain aura une part limitée, il y aura un système de drones autour. Les Américains font la même, les Russes, les Chinois. Et donc tu construis un futur, à marche forcée, sur la base d'une vision de ce que pourrait être ce futur-là, et ça se réalise en fait. Charge à notre ennemi d'être malin et de dire, si j'en ai pas la capacité, comment est-ce que je réagis face à un système de système, y a plein de manières de s'adapter. Mais je trouve ça assez fascinant de voir à quel point on a la capacité, c'est pour ça que c'est un peu désespérant des fois, le fait qu'on bouge pas, mais de construire des futurs, du moment où on l'a décidé en fait. Donc il y a une forme de... Quelqu'un a dit que c'était ça le combat de demain, donc tout le monde y va et puis je m'adapte. C'est assez vraiment incroyable. Donc là, on a un exemple d'une organisation qui pense vraiment le temps très très long. On en a plein d'autres, hein, je veux dire, les eaux usées de Londres ou de Paris, toute la gestion de l'eau des Romains. Enfin, on a plein d'exemples de temps long, de choses qui ont été très très longues, qu'on a un peu oubliées, à part quelques exemples de ce type-là. Et c'est assez dommage. Et ça, ça pose la question de l'horizon temporel, en fait.
Ah bon ? Le système des eaux usées de Londres, c'est du temps long ? En fait, oui. Car figurez-vous que l'ingénieur qui l'a construit au XIXe siècle l'a dimensionné pour une population deux fois plus importante qu'elle ne l'était à l'époque. Autrement dit, il a décidé de construire cette installation de façon à ce qu'elle soit capable d'être fonctionnelle et performante, même dans des conditions très différentes de celles qui prévalaient lors de la conception du système. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de se projeter aussi facilement dans un horizon temporel long ?
Il y a une mode en ce moment aussi dans notre milieu qui est le mystère du temps long.
Quand vous prenez le temps du temps long, vous dépassez... la droite, la gauche, le privé, le public, le jeune, le vieux, c'est ceux qui veulent en être d'un futur qui soit autre qu'anxiogène.
Historien et prospectiviste de formation, Mathieu Baudin est aujourd'hui directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, un think and do tank dont la vocation est de diffuser librement des nouveaux savoirs pour réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et inspirer des futurs souhaitables.
Donc nous, ce qu'on propose, c'est la création d'un vice-premier ministre du temps long, un super ministre du futur qui serait entre le premier ministre qui gère l'urgence et les ministres qui gèrent par secteur un certain nombre de décisions qui nous impactent pour les 20 prochaines années. Et ce super ministre, il serait justement le référent du temps long. Et les ministres devraient leur rendre compte à chaque fois, à chacune de leurs décisions, sur justement la vision prospective qu'on n'arrive pas à voir.
Et je trouve que c'est très joli, je veux dire, c'est un peu le mystère de la magie d'Harry Potter. Good luck, Harry. Mais appliqué à la vie publique, et je me dis, ce serait une manière, entre guillemets, de rajouter du temps long dans des cycles très courts. 5 ans, c'est rien. On est passé de 7 à 5, 5 ans pour un président. Tu travailles un an, tu commences à te battre pendant un an, il te reste 2 ans de boulot au milieu, quoi. C'est ridicule, ce truc-là. Et donc, espèce de garant de l'impact réel et des conséquences pour les citoyens de ce qu'on est amené, ce qu'on pourrait faire quand on bosse pour des organisations. Nous, on a une règle en design fiction qui est de dire c'est minimum 2 à 3 fois la boucle stratégique classique. Donc, en gros, tu t'appelles l'armée, ton horizon temporel va être de 15 à 30 ans. Donc, nous, à la Red Team, on commence en 2030, donc tu vois, on commence tard, et on finit en 2060. Donc, on prend des boucles longues, volontairement très longues, pour sortir les gens. Si tu bosses dans du produit de grande conso, je passe tes groupes SEB, on va t'amener à réfléchir à 10, 15 ans, les mutuelles à 10 ans, voilà, ce type de choses. C'est court, hein, 15 ans, mais c'est long pour eux. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que tu peux onboarder, c'est un mauvais français ça, tu peux embarquer des gens en leur disant oui, je vais te parler d'IA, non, c'est pas ton sujet pendant 2 ans, oui, tes KPI sont toujours là, tu dois toujours délivrer à la fin de l'année, t'es toujours dans ton plan strat classique. Pour autant, respire un coup et mets les petites briques maintenant, les petits pas. On parle beaucoup de petits pas en design fiction, qui créent demain, toi, les petits pas qui limitent tes futurs pour créer ton avenir. Et donc ces petits pas-là, en fait, ils sont super importants, ils commencent dès maintenant. Puis c'est pas grave si c'est pas toi qui va le continuer dans 7 ans. Mais comme c'est très très loin, ça permet de mobiliser facilement les gens, ça leur permet d'être assez radical. Mais on triche, hein, parce qu'on dit aux gens, bon, à la limite, c'est pas toi qui va le faire, hein, donc c'est pas très grave, lâche-toi, imagine un truc super positif. Et petit à petit, tu te rends compte que tu peux ancrer des choses de cette manière-là.
Ce que dit Nicolas, et auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est que pour qu'une projection long terme soit autre chose qu'un exercice de pensée intellectuelle froid, il est indispensable de faire éprouver ce que sera ce long terme. Et c'est là que le design fiction entre en action. Et l'exemple du rapport du GIEC est très parlant. Là-dessus, Nicolas rejoint le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, pour qui le principal stimulant de la mémoire, c'est l'émotion.
Je pense l'immense faiblesse des récits autour de l'écologie, c'est que le rapport du GIEC est écrit par des experts, il est monumental, il est parfait. Moi, tous les ans, je le lis, je trouve ça fascinant. Et je trouve pas du tout ça embarquant. Il n'y a aucune émotion là-dedans, ça ne me raconte pas d'histoire, ça ne me le montre pas, ça ne le met pas en débat, et je vis rien, en fait. Je vis pas ce que c'est concrètement que d'avoir chaud. Je veux dire, on peut dire, il y aura tant de morts, il fera chaud l'été, et tant d'épisodes climatiques extrêmes. Mais tant que je l'ai pas ramené, il se passe rien, en fait. Et donc ça, c'est l'objet du design fiction, que de faire un produit, un artefact, qui me montre de manière extrêmement pointue, extrêmement précise, ce qui va se passer demain. Et franchement, le rapport du GIEC, en fait, il n'y a pas de récit autour, il n'y a rien. On n'a pas raconté d'histoire autour de ça. Il y a très peu de choses qui ont été faites. Et je pense que c'est une erreur, mais absolument fondamentale quand on parle du futur. Si on n'est pas capable de le raconter, c'est pas possible.
Bon, du coup, si on a oublié le futur, c'est parce qu'on ne l'éprouve pas et qu'on ne le raconte pas non plus. On revient à ce tempus nullius, ce temps nul de Roman Knarik. Tant qu'on n'a pas fait ça, le futur reste abstrait. Et s'il est abstrait, on ne peut pas le faire exister, même mentalement. Ce qui pose une nouvelle question. Ces récits pour faire éprouver le futur, qui les écrit? Qui les raconte? Et surtout, qui les diffuse?
Ce qui m'intéresse, c'est que finalement, en fait, les futurs sont concurrents. Il y a plusieurs acteurs qui cherchent à se les approprier. Donc ils sont concurrents au sens où ils existent là. Et puis, il y a une mainmise concurrente sur ça. Et pour parler de futur et pour parler de demain, il faut le raconter. Et en fait, il y a une concurrence de récits. Le souci que j'ai, c'est que je pense que tout le monde n'a pas voix au chapitre quant à la construction des récits. Les grandes entreprises ont des moyens massifs. Je me dis, mais quelles sont les alternatives? Quand est-ce que la société civile est en mesure de créer un récit réel, qui n'est pas forcément utopique? C'est un autre débat, l'utopie me fatigue. Parce que l'utopie, c'est pas cool à lire, c'est pas, enfin, ça fait suer tout le monde, on s'endort. On a tous envie de créer des bonnes manières de vivre ensemble, sauf qu'au bout de 3 minutes, le récit, tout le monde s'endort. On est humain, on a ce que nous on appelle la part de l'ombre. Il faut la préserver dans ces futurs-là. Mais il y a des personnes qui devraient être en mesure de créer des récits, mais plus massifs, plus industriels, de partager des visions. Dans les années 60, tu écoutes le pitch pour aller sur la Lune.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
Qu'on réécoutait récemment, ça donne des frissons, en fait. C'était quelque chose qui était totalement inatteignable, qui était impossible, alors qui était lié certainement évidemment à un conflit, mais qui est aussi une avancée pour l'humanité de manière collective.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition sequence start. 6.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Il y a une histoire, j'ai un auteur qui s'appelle Xavier Dorizon dans la rétine, et qui m'a dit un truc qui m'a vraiment frappé. Il m'a dit, tu sais, il n'y a rien de plus important que les histoires dans la vie. Regarde, il y a un type qui a raconté l'histoire d'un type qui était cloué sur une croix il y a 2000 ans. Regarde les conséquences pour l'humanité. Il a raison, en fait. On est des boîtes à histoire, on est des humains. Il n'y a rien de plus important. Il y a un autre exemple qui me frappe beaucoup. Ça, c'est Xavier Monméjean qui me le citait, mais un psychologue américain qui était allé voir des adultes, des enfants, des ados, et qui leur avait dit, dessinez-moi la licorne la plus réaliste qui soit, je vous donnerai 10 000 dollars. Et une compétition pour dessiner la licorne la plus réaliste. C'est incroyable. C'est superbe. Enfin, je veux dire, c'est fou quand ils pensent. Et donc tout le monde s'écharpait en disant, non, elle n'est pas réaliste, ta licorne. Qui a vu la dernière licorne vivante? C'est stupéfiant.
C'est fou, cette histoire de licorne, non? Bon, plus sérieusement, ça a une double conséquence. Un, ça veut dire qu'il y a en permanence plusieurs futurs potentiels en concurrence, qui vont ou non se réaliser, se déployer dans le réel. Deux, ça veut dire que si on a une vision claire du futur que l'on souhaite, on peut mettre en place les actions pour le réaliser, mais à condition d'en avoir les moyens. Et là, on n'est pas tous égaux.
J'ai un sujet sur les imaginaires, et évidemment, je pense qu'il y a un immense sujet de diversité. Et on vient à cette capacité-là, en fait. Tout le monde me dit, on dit beaucoup dans notre milieu, oui, il faut trouver des imaginaires en Afrique, il faut trouver des imaginaires à tel endroit, etc. Il y a eu beaucoup de groupements qui sont lancés là-dessus, des collectifs. Et finalement, il n'y en a pas des masses. On a vraiment fait l'exercice, tu vois, on s'est dit, c'est quoi les imaginaires de l'IA, c'est quoi les imaginaires de telle chose chez les Inuits ou que sais-je. Et en fait, on n'est pas tous égaux quant à la production d'imaginaires. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet dans la capacité à outiller. Et quand je dis égo, c'est juste que quand l'armée a la capacité aux États-Unis à faire un grand show, Top Gun 3, 4, 5, 6, que sais-je, à le financer, à le distribuer sur toute la planète, la dimension massive de l'impact, elle est, enfin, il y a un saut quantique, en fait, entre ce que va produire quelqu'un en Afrique du Sud. Tu vois, il y a des trucs très beaux, je t'encourage à regarder Punzi, qui est un très très bel essai, PUMZI. Sur la gestion de l'eau en Afrique, qui est absolument superbe.
I found the perfect soil sample and planted the mighty seed.
I didn't send anything. Reported to security and to move on.
This could mean there's life on the outside.
You are not qualified to determine that. The outside is deep.
What about the plant?
Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la capacité à outiller alors des minorités ou des gens qui ont autre chose à raconter, qui veulent proposer des alternatives, et à les outiller proprement pour mettre en débat des récits entre eux-mêmes. Pas juste que le récit lui-même soit porteur de son propre débat, mais pour aller un cran derrière.
Alors, j'ai demandé à Nicolas comment il explique que ce soit si difficile de convaincre des décideurs de l'utilité de penser le temps long et de raconter des futurs, justement. Et lui, comment fait-il quand il intervient auprès de ses décideurs pour les outiller ?
Il y a un mix de « ça ne me concerne pas », puisque de toute façon ça va arriver après moi. Il y a un mix de volonté d'aller chercher des signaux faibles, ce qui me fatigue profondément. On se dit « ah, mais finalement, on l'avait déjà vu, c'est un signal faible ». Non, pas trop. Il y a parfois une difficulté à rentrer dans l'action. Et donc ça, c'est l'immense débat et l'immense enjeu des petits pas. Si t'es pas en mesure de dire « devant moi, j'ai 6 futurs, et je m'approprie celui-là, c'est celui que je veux faire ». Et là aussi, il y a une petite précaution à oratoire à prendre, parce que finalement, si t'es la défense, l'armée française, ton futur préférable, c'est pas forcément celui de la PME du coin ou celui du citoyen allemand. Donc, dès qu'on parle de futur, c'est la complexité du plat de spaghetti. C'est que toi, tu vas regarder un grand plat de spaghetti, mais en te mettant de ton côté de la spaghetti, en disant c'est mon point de vue, mais le type en face de la table, de l'autre côté, il a pas le même point de vue sur le même plat. Et donc la notion de préférabilité, là, elle est vraiment importante. Donc il y a un premier enjeu, c'est de ramener les enjeux réels de demain à aujourd'hui, leur dire attention, ce truc-là va arriver, où il peut, et même s'il n'arrive pas, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est le wargame qu'avait fait l'armée américaine, où ils avaient joué un virus HN avec une contagiosité qui était celle de la Covid. En gros, ils ont joué la Covid il y a 3 ans.
Quoi ? Ils ont joué la Covid il y a 3 ans ? J'avais un peu de mal à y croire et j'ai vérifié l'information.
That uncomfortable moment when you find yourself a little bit living in your own wargame.
Oui, il y a bien eu non pas un, mais plusieurs wargames simulant un virus grippal mortel et hautement contagieux, et ce, dès le milieu des années 2000. Margaret McCown, agent du Pentagone, se souvient de s'être préoccupée, avec ses équipes, de la disponibilité en lits et en ventilateurs dans les hôpitaux américains, d'avoir envisagé la fermeture des écoles et l'impact du télétravail sur l'économie et les relations sociales. Ces scénarios ont impliqué des membres du Congrès, du Pentagone et des agences fédérales. Et pourtant, la réponse des États-Unis à la pandémie de Covid a été aussi chaotique que dans les autres pays du monde. Voilà qui illustre parfaitement le décalage entre scénarisation et action. Il ne suffit pas d'anticiper en théorie. Encore faut-il que le scénario soit pris au sérieux par les autorités, ce qui, en l'occurrence, n'a pas été le cas.
Il n'y
a aucune conséquence. Ils n'étaient pas plus prêts qu'un autre, juste parce qu'en fait, ils n'ont pas cru. C'est un exercice intellectuel. Ils sont un peu en forme de Gedanken Experiment, si tu veux, un exercice de pensée. Et il faut surtout pas que ça soit ça, la perspective. C'est un exercice où tu imagines des choses et puis tu dois te les approprier. Sinon, t'as fait travailler tout le monde pour rien, en fait. Après, il y a un autre sujet, c'est que ça va vite. Tiens, j'aime bien les métaphores, je t'en envoie là une autre, mais tu conduis ta voiture vite la nuit. La vitesse de ta voiture, c'est la vitesse de l'évolution du monde. Si t'as des feux très puissants parce que t'as fait une prospective, tu vois loin, donc tu vas voir le cheval ou le daim au bord de la route que tu vas percuter. Mais il faut aussi éclairer sur les côtés, fort, parce qu'il y a un daim qui peut arriver en courant et qui peut te percuter, mais beaucoup plus près. Et le gros sujet, c'est de se dire, mais finalement, il n'y a pas d'oracle là-dedans. Personne, quand on pense que la prospective est une science de la prédiction, les gens n'ont rien compris, en fait. C'est une science de l'improvisation managériale, la prospective. C'est une science de l'action. Et de te dire finalement, comment est-ce que j'arrive à vraiment mettre ça en musique pour me rafraîchir régulièrement et me dire que ce truc-là peut arriver, s'il n'arrive pas là, l'année prochaine, c'est pas grave, mais que j'aurais déjà joué cet exercice, c'est important. J'ai donné un exemple très simple, un grand groupe hôtelier où j'avais fait une conférence il y a 10 ans. Et j'avais montré des calculs très simples, disant que l'espace allait être rendu accessible et que donc ça posait la question du tourisme spatial. Et tout le monde avait rigolé. Et j'avais dit, mais il faut pas rire parce qu'en fait, à 40 millions de dollars en 2010, le vol, faire 2 fois le tour de la planète dans Soyouz, ça intéresse que 3 milliardaires. Je veux dire, le jour où on passe au million, le marché est passé des milliardaires aux millionnaires. On en a 1 million des millionnaires. Et en fait, pour moi, c'était pas un débat de savoir si le tourisme spatial allait arriver, c'était juste à quelle occurrence. Et on n'a jamais les bonnes temporalités. C'est comme le débat VTC et la taxi. Et le débat VTC et taxi, moi, ma taxi m'avait fait mal au cœur. Je m'étais dit, tous ces gens-là se rendent pas compte que la voiture autonome va arriver. Et que toi, t'es taxi, que t'as acheté ta licence de 100 000 balles à Paris. Et alors, on est français, donc on va réguler, on va faire ça, mais ça changera au fait que la voiture autonome va arriver, quoi, un jour ou l'autre. La temporalité importe peu, finalement. C'est juste de se dire, face à ça, qu'est-ce que je fais d'une communauté de taxis de VTC, socialement, toi, par exemple, je dis n'importe quoi. Et ça m'intéresse, finalement. Il y a aussi ce débat-là dans l'action, c'est que ça a mis 10 ans à arriver dans le cas de mon groupe hôtelier. Bon, VTC taxi, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais ça va arriver, point.
Oui, ça va arriver, point. C'est pareil avec les pilotes de ligne et le personnel aérien. À un moment, le trafic va diminuer, le nombre de compagnies aussi, et il en va de notre survie. Et de la même façon que les mineurs lorrains se sont retrouvés sans boulot, un tas de professions sera frappé de plein fouet. Il y a des conséquences des technologies futures qu'on peut déjà anticiper, mais d'autres, pas du tout. Par exemple, les métavers. Comment vont-ils nous transformer? On n'en sait rien. En tout cas, Nicolas nous a permis de comprendre que pour envisager un futur, il ne faut pas seulement y réfléchir, il faut aussi le ressentir, le sortir de l'abstraction. C'est curieux d'ailleurs, cette capacité qu'on a à tout abstraire, à tout mettre à distance, à considérer le futur comme un truc dépourvu d'humains et de sensations. Je me demande d'où ça vient ce goût pour l'abstraction. Je crois qu'il va falloir se pencher sérieusement sur la question. Alors, rendez-vous au prochain épisode.
Enquête d'avenir. Le podcast.